Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Saint-Pierre Express 97.4 et nous sommes sur le temps de vie associative. Alors aujourd'hui, nous recevons Michel Auffray, président de l'association Échiquier Corpopétricien.
C'est
Bernardin, mais c'est pas grave.
Non, pas du tout.
Voilà, et ça nous donne l'occasion de présenter Bernardin, président, et Michel Auffray, qui est dirigeant donc, de l'association.
Oui.
Et puis aussi des enseignantes qui sont présentes, et aussi le responsable de la bibliothèque, Monsieur Rioux. Donc c'est l'occasion de se présenter dans un premier temps, et aussi des joueurs et des joueuses qui sont là. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Monsieur le Président Bernardin.
Quel honneur.
Oui, bonjour, je suis en effet, je préfère Colissot Bernardin et pas Bernardin Colissot, c'est important pour moi.
Oui, le club a eu la chance de voir le jour à Saint-Pierre-de-Corps en 2012. Quand je vois ce qu'il est devenu, je suis très content.
Très bien. Une présentation, on fait un tour de table.
Michel Auffray, adhérent du club depuis la rencontre avec Bernardin. Et puis voilà. Et puis j'interviens dans les écoles et collèges. Bernabé.
Tu te présentes, mon grand ? Comment tu t'appelles ? Ce n'est pas grave.
Je m'appelle Bernabé.
Très bien.
Oui, moi je m'appelle Gilles. Alors donc je suis directeur de la bibliothèque et à ce titre je m'intéresse à ce qu'on y fait, donc aux échecs. Enfin, à titre personnel, j'ai adhéré à l'association. Je connaissais Bernardin un petit peu avant, qui m'avait ridiculisé un an ou deux avant en jouant aux échecs.
Lors d'une partie.
Et ensuite, l'intérêt du jeu a fait que j'ai adhéré à l'association et que, à titre personnel, je trouve ça extrêmement sympa, je vais dire, de jouer aux échecs.
Très bien. Les filles.
Bonjour, moi je m'appelle Lison et je fais partie du club de Saint-Pierre d'échecs.
Très bien.
Bonjour, je m'appelle Eulalie et je fais partie du club d'échecs de Saint-Pierre-des-Corps.
Bonjour, je m'appelle Sacha.
Moi, je suis Audrey Bond, je suis enseignante en CM2 à l'école République et mes élèves pratiquent les échecs.
Bonjour, je suis Sarah Foria, enseignante à l'école Viala Stalingrad et ça fait 2 ans aussi que mes élèves participent aux petits ateliers proposés par Michel dans les classes. Voilà,
les présentations sont faites, donc l'association, Bernardin nous expliquait quand elle a été créée, et dans un premier temps, donc je vais me tourner vers vous, Monsieur Rioux, pourquoi le jeu d'échecs à la bibliothèque ?
Bon, la première chose, c'est pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas aux échecs dans une bibliothèque. Dans les bibliothèques, on peut faire plein de choses, plein d'activités. Bon, les échecs, c'est particulièrement intéressant pour nous, parce que les bibliothèques, bien sûr, on peut y faire toutes sortes de choses, mais le baby-foot, c'est moins bien. L'intérêt de
ça... Pas de cliché.
Oui, il faut éviter ça.
On se comprend.
Dans une bibliothèque, il faut un peu de silence. C'est intéressant, parce que ça permet à chacun d'y vivre. Il y a un niveau de concentration qui... On se dit, je ne sais pas si c'est la bibliothèque qui profite aux joueurs des échecs, aux joueurs d'échecs, ou si c'est les joueurs d'échecs qui donne cette ambiance un petit peu de concentration et voilà donc l'idée c'était qu'on puisse jouer aux échecs. De toute façon il y a d'autres jeux, des jeux de société, on y joue aussi à la bibliothèque, on fait toutes sortes de choses à la bibliothèque, on joue, maintenant on vient de démarrer une activité tricot. Voilà, pourquoi pas. L'intérêt, c'est que on se trouve bien dans une bibliothèque. Alors, il faut. Donc ça, je dis les choses de base. Après, les échecs, c'est vraiment quelque chose d'éducatif. On en a bien conscience. On a des livres sur les échecs et, d'une certaine manière, on veut quand même défendre cette initiative.
Alors, je me tourne vers les enseignantes. Donc, puisque cette initiative a été mise en place, oui, en partenariat avec les enseignantes. Comment est-ce que ça s'organise concrètement ?
Alors déjà on apprend à jouer aux échecs en classe. Ça a commencé en classe il y a 3 ans. Avant, Bernardin venait à l'école sur des temps périscolaires proposés, mais là il y a longtemps, il y a longtemps. Et depuis 3 ans, sur proposition de l'échiquier corpo pétrussien, de Michel notamment, il y a des cours d'échecs qui sont donnés. Et du coup, on apprend à jouer, on s'entraîne et je sais pas. Et après, on participe à des tournois.
Vous participez à des tournois. Alors, je vais me retourner vers vous, Michel. Oui. Donc, puisque vous êtes aussi à l'initiative de ce partenariat, si j'ose dire, entre les écoles et la bibliothèque, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors, je peux dire... Alors, ça a commencé comme ça. D'abord, quand on s'est rencontrés, l'échiquier pour Corpo-Pétrussien et la bibliothèque, c'était de faire une animation par mois. Et qui dure, puisque chaque mois, c'est devenu
une habitude.
Une très bonne habitude. Après, l'idée d'organiser des tournois entre classes dans la bibliothèque, ça a été une idée géniale.
On va y revenir.
On va y revenir. Et après... On devient de plus en plus potes entre la bibliothèque et l'échiquier corpo-pétrussien. Le dernier tournoi de l'échiquier corpo-pétrussien qui s'est déroulé le 11 novembre, il s'est passé quelque chose de très bien. C'est-à-dire qu'entre les parties d'échecs, pour que les enfants se posent, parce qu'ils ont besoin de se défouler.
On va y venir.
Eh bien, on a fait quoi? On a mis les livres et on a fait du cocooning comme à la bibliothèque. Et ça a été très reposant pour tout le monde.
Alors, puisque nous avons des jeunes joueurs et joueuses d'échecs autour de la table... Donc, nous allons vous retourner vers vous, les enfants. Alors, comment ça se passe, ces parties d'échecs à la bibliothèque, de l'école à la bibliothèque? On commence par qui? Qui est-ce qui veut s'exprimer? En premier ou en première? Oui, je t'en prie.
Bah, en fait, on a fait, vendredi, on a fait un tournoi, par exemple, à la bibliothèque. La classe de CM2 contre la classe de CM1, CM2. Et bah voilà, et en fait, entre les parties, il y avait du silence. Et quand on avait terminé, on devait chacun devait tourner à droite. Du coup, on se trouvait jamais avec le même joueur ou la même joueuse.
Ah, donc c'est donc l'idée d'un tournoi. On reviendra tout à l'heure spécifiquement sur le rôle du silence, sur l'impact, sur la concentration. Mais avant, peut-être Bernardin ou Michel, ou même peut-être les enseignantes, parler de ces actions. Donc, on reviendra tout à l'heure sur les actions dans les quartiers, mais là, on va un peu faire un focus sur le tournoi interscolaire, car je pense que vous y participez.
Alors, ce que je peux dire pour le tournoi interscolaire, ça a commencé il y a 2 ans, et donc avec Madame Bonte, ici présente. C'était la pionnière.
Oui, oui.
Vous étiez 3 classes.
Ouais, ouais, ouais.
Et le fait de réunir des écoles où on était une centaine d'enfants, et on est passé après à 400, ça a été vraiment un énorme bond en avant dans la relation avec les enseignants, dans la relation avec l'échiquier corpo-pétrussien, et la façon de travailler les échecs. Enfin, il y a plein de choses à dire. Madame Bonte, je vous en prie.
Donc oui, c'est vrai qu'on a commencé petit, par un petit un tournoi il y a 2 ans. On était 3 classes seulement. Oui. Trois classes, d'accord. Et l'an passé, on était très très nombreux, avec beaucoup de bénévoles. Enfin, on les remercie encore, hein, parce que c'était un travail titanesque de mise en place. On n'avait que à venir avec nos élèves préparés, et ça s'est passé, c'était incroyable. Une concentration, enfin, voir autant d'enfants comme ça concentrés et partager le même plaisir de jouer ensemble, qui avait compris, qui vraiment, enfin voilà, on a passé un moment extraordinaire, et c'est vrai que ça a clôturé l'année sur ce projet. Voilà, bon, c'est vrai que quand on termine comme ça, après on a envie de repartir pour l'année d'après, c'est sûr.
Alors, justement, au niveau de l'impact pédagogique, au niveau de la transversalité, si j'ose dire, donc on peut aussi peut-être parler des apports au niveau des mathématiques, de l'anticipation. On a bien compris au niveau de la concentration, mais là, au niveau des mathématiques, même de l'histoire aussi, peut-être, quel lien vous faites simplement avec les mathématiques, par exemple?
Il est vrai que les enfants apprennent à anticiper. Donc ça, on voit bien qu'ils améliorent leur stratégie au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on voit le plaisir qu'ils ont à développer des tactiques et des choses comme ça. Ouais. Et effectivement, avec le tournoi, au final, on comprend mieux aussi les enjeux et les compétitions. Cette compétition, finalement, nous permet de mieux anticiper aussi, après l'année suivante, le niveau d'enjeu et de compréhension qu'on doit atteindre.
Oui, Madame Bon.
Après, comme tout jeu, il faut accepter des règles, s'y soumettre, accepter de perdre. Parce qu'accepter de gagner, en général, ça va.
La gestion de la frustration.
Voilà, exactement. Du coup, respecter son adversaire. Et ça, je dois dire qu'en tout cas, ce qu'on a vu l'année dernière au tournoi, le pari a été gagné sur les compétences citoyennes. Hein. Et je me fais aussi porte-parole d'une maîtresse de CPCE1 là, qui me disait avant que je vienne à l'émission, et tu pourras dire pour le repérage aussi, un truc tout bête, hein, mais en mathématiques, le repérage dans un quadrillage, voilà, c'est ça. Mmh. Et notamment avec le déplacement de la pièce du cavalier, enfin voilà. C'est des petites choses toutes simples, mais qui sont travaillées en mathématiques, en CPCE1, un peu moins après en cycle 3. Mais voilà, ça met en situation aussi.
Déplacement dans l'espace. Alors, je vais me retourner vers les joueuses et les joueurs. Qu'en pensez-vous ? Vous avez participé à ces tournois, vous ?
Oui, on a participé à plusieurs tournois.
Et comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez ressenti ?
Bien.
Vous avez bien aimé ?
Oui.
Alors, est-ce que vous avez battu des plus grands ?
En fait, la plupart des personnes, elles avaient notre âge.
D'accord.
Et après, il y avait des personnes qui étaient plus grandes que nous. Il y avait des collégiens.
Très bien. Il y avait des collégiens. Mmh. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir une certaine émulation. Émulation, ça veut dire on a envie de se surpasser. Est-ce que vous ressentez ça, des fois, d'avoir envie de vous surpasser pour essayer de battre les autres ?
Oui.
Alors, comment ça se passe alors ? C'est-à-dire que vous avez des tactiques, vous avez... comment est-ce que vous organisez ça ?
En fait, avec Michel en classe, eh bien, on apprend souvent beaucoup de coups qui nous servent après à battre des adversaires.
Vous apprenez des coups ? Quels coups, par exemple ? Vous me donnez un exemple de coups ?
Je vais laisser parler...
aussi, il y a des maths, par exemple le maths du berger.
Très
et
bien.
Le maths du lion, qui est très court, qu'on appelle aussi le maths de l'imbécile.
Eh bien, on voit qu'on a affaire à des fins tacticiens qui retiennent beaucoup de choses. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Rioux, donc ce lien avec les écoles, ce lien dans la bibliothèque. Et donc, vous, quel retour en avez-vous ?
Oui, alors voilà, les échecs présentent plein d'avantages parce que nous, on aime qu'il y ait des activités à la bibliothèque, mais on aime et on travaille avec les enseignants de manière tout à fait générale et habituelle. Donc là, ça permet de mélanger toutes les animations, quoi. Hein. Et donc, c'est intéressant. Alors, l'expérience, hein, ça, c'est quand même extrêmement agréable. Nous, une classe vient dans la bibliothèque, ça bouge, ça remue. Là, ils sont deux classes. On a parfois accueilli même plus que ça, trois classes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné... Alors, justement, la question, c'est le silence. C'est pas tellement qu'ils sont silencieux, c'est qu'ils sont concentrés. C'est-à-dire que c'est la concentration qui donne le silence. Ils sont pas intéressés. Alors, moi, je trouve que je me prononcerai pas sur les mathématiques, parce que c'est pas mon domaine, mais sur l'intérêt pédagogique, là, je le sens bien, quoi. Parce qu'on voit effectivement qu'ils progressent dans une manière d'agir, et ça prend du sens, l'idée de se concentrer, et du résultat que ça donne, du plaisir de jouer. Et alors que, c'est un vrai travail, c'est évident, quoi. C'est ça, quoi. Alors donc, pour nous, pour la bibliothèque, voilà, le fait que les enfants viennent à la bibliothèque pour ce moment de plaisir intense, pas immédiat, mais à la fin, on le voit sur leur visage. Nous, on reçoit des classes dans toutes les autres situations, hein, pédagogiques, voilà. Autour du jeu d'échecs, il se passe quelque chose.
Très bien. Donc, nous allons y revenir tout à l'heure sur le rôle des échecs au niveau du silence, le lien entre les écoles, et aussi, perspective, le rôle de l'asso dans les quartiers, puisqu'il y a aussi des interventions dans les quartiers. Et donc, après une courte pause, nous reviendrons pour approfondir cela.
Mmh. you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere, somewhere far away from here. We never learned we've been here before. Why are we always stuck around in front? We'll be right back.
Vous êtes branchés sur le...
Nous sommes sur Radio Saint-Pierre. Nous sommes sur Radio Saint-Pierre Express 97.4 avec des enseignants, avec le président de l'échiquier copropétricien, avec des joueurs et des joueuses, avec le directeur de la bibliothèque. Et donc, nous échangeons donc sur l'impact qu'a cette association dans notre commune, dans cette commune. Et je voudrais enchaîner avec vous, Bernardin. Donc, tout à l'heure, nous parlions du tournoi interscolaire. Nous allons développer un peu plus tout à l'heure. Il y a aussi une autre action qui est mise en place. C'est l'action dans les quartiers. Pouvez-vous nous en parler ?
Ben oui, c'est une idée que, comme j'ai dit, quand j'avais eu l'idée de créer le club, c'était que, certains diront que c'est une idée atypique, mais c'est tout moi, c'est que je voulais que tous les habitants et les habitantes de Saint-Pierre apprennent à jouer aux échecs. Donc l'idée, évidemment, c'est de sortir de notre quatre murs et faire des animations dans le quartier. Donc le club a validé ce projet et avec Michel et les adhérents du club, selon les jours de la semaine, on intervient dans tel quartier.
Alors comment ça s'organise ? Quel jour ?
C'est, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est le lundi et le jeudi, à partir de 16h30 selon les quartiers.
Et parfois aussi dans des temps de vacances. Il y a des moments.
Oui, oui.
Et des actions.
Tout à fait, oui. Cette action, c'est toujours pareil. C'est comme on sait qu'il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas partir en vacances ou faire d'autres activités, on s'est dit, si on met ça en place. Et bah dans ce cas, les personnes interviendront et viendront découvrir notre sport. Et pourquoi pas aussi franchir aussi ensuite après la porte du club et s'amuser avec nous, en fait.
C'est intéressant. Oui, Michel, je vous en prie.
Alors, il y a dans la démarche de faire un tournoi interquartier, c'est le tournoi interquartier. Ça veut dire qu'il y a 6 quartiers sur la ville de Saint-Pierre-des-Corps. On a commencé par la Rabatterie et la Galboisière. Bernardin faisait donc ces séances-là pendant 7 semaines. Et l'idée, c'est donc de réunir les habitants par rapport à ce tournoi. Bon, on est vraiment au début. Ensuite, c'est intervenir sur 2 autres quartiers et puis 2 autres au bout de 2 mois. Et après, réunir tout le monde en un seul, après-midi ou une soirée pour faire ce tournoi interquartier. Mais là, c'est une première ébauche comme on a pu le faire pour le tournoi, premier tournoi interscolaire. On est en haut du bout de tout et là, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités de faire rencontrer tout le monde autour de cette passion qui est le jeu d'échecs.
Alors, tout à l'heure, j'ai entendu un mot, sport. Sport cérébral, certes, mais sport. Est-ce que vous sentez dans les quartiers, dans la population, une certaine émulation où on en est encore simplement au stade du loisir, de la convivialité, du lien, lier les gens entre eux, où vous sentez quand même que certains se prêtent au jeu?
Disons que pour l'instant, personnellement, je préférais bien que ça se fasse pas, je veux quand même que ça reste aussi convivial. Comme dans l'esprit du club, au fait, c'est avant que ça soit un club d'échecs, c'est un club familial. Donc dans le quartier, je vais jouer le dictateur, je veux imposer ça au fait. Que les gens viennent pour s'amuser. Même si notre sport est un sport, certes, mais je veux que ça reste convivial, que les gens viennent, qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir. Voilà.
C'est un sport cérébral. Est-ce que hier, il y avait un championnat des jeunes d'Indre-et-Loire qui réunissait 150 gamins. Je peux vous dire qu'ils ont bien dormi le soir, comme ça, en passant.
Oui,
donc, c'est très cérébral. Après, pour sans être dictateur, mais c'est convaincre tout le monde, il y a une émulation. Et c'est parti des écoles, et ça transpire dans les quartiers. Donc on y va tout doucement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de succès quand même. Mais voilà, on tient vraiment à freiner pour bien assurer, parce que sinon ça peut être partout, tout le temps, et nous on sera complètement crevés pour pouvoir suivre.
Alors, justement, on voit qu'il y a des actions qui vont dans les écoles, qui passent par la bibliothèque, qui vont dans les quartiers. On voit vraiment que vous vous déployez dans les espaces où vous pouvez. Et justement, pour les néophytes, pour les gens qui ne connaissent pas, comment fait-on, quand on est dans une association d'échecs, pour aussi passer, parce qu'il y a aussi un stade, pour passer aussi de l'étape, si j'ose dire, c'est pas péjoratif, d'amateurisme, du plaisir, pour essayer de dégager une certaine élite, une petite élite, parce qu'il y a certains qui s'y prennent au jeu aussi, il y a des compétitions. Il y a des... Alors moi je joue aux échecs un peu, plus beaucoup, mais je joue quand même. Il y a quand même un classement des points. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez expliquer aux néophytes les classements par exemple?
Alors les classements, quand on adhère au club, on a d'abord une estimation selon son âge. Par exemple, un adulte, ce sera 1399 ELO. C'est-à-dire c'est le niveau estimé pour un adulte. Mais pour les enfants, par exemple, pour l'âge de Lali, de Sacha, de Bernabé ou... de Lison, ça sera estimé, selon leur âge, entre 999.
Alors, puisqu'on parle des enfants, oui. Michel, je vais vous redonner la parole. Oui. Les enfants, votre classement, ça se passe comment? Qui est-ce qui peut nous dire quel est son classement et combien de points il a ou elle a? Oui? Tu parles dans le micro?
Oui. Bah, c'est avec les points, que ça dépend. Si on gagne une partie, ça nous fait un point.
Et combien tu as de points, toi? Tu sais?
Ça dépend dans quel tournoi je fais, en fait.
D'accord. Tout dépend du niveau de compétition.
Oui.
Et les autres enfants? Oui.
En fait, c'est parce que on fait dans les lents et dans les rapides. Donc, le lent, c'est pas les mêmes points que dans les rapides.
Donc tu nous expliques que c'est par catégorie, c'est par niveau.
C'est par catégorie aussi, par exemple si c'est une partie lente, et ben souvent les parties lentes on en fait moins que les parties rapides.
Alors je vais t'embêter un peu, et toi au niveau de tes points, comment ça se passe? Tu sais où tu en es?
Bah je sais pas trop où j'en suis, mais en fait ça dépend parce que quand vous dites les points, je sais pas si c'est les élos ou les points par compétition.
D'accord.
Parce que dans les compétitions, par exemple, si je gagne une partie, j'ai un point, et à la fin de la partie, et à la fin du tournoi, et ben, le but, c'est d'avoir le plus de points possible.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec ces plus de points? Je reviens vers vous, Michel. Et donc, ce classement, comment? Oui?
En fait, si on fait un bon tournoi, ça veut dire qu'on gagne plein de parties, et ben, notre elo va augmenter. Alors que si, pour notre elo, et ben on fait pas beaucoup de points, et ben notre elo risque de baisser.
Alors là on est avec des techniciens, alors nous sommes peut-être un peu perdus, on entend notre elo, alors Michel va nous expliquer, éclaire-nous Michel, s'il te plaît.
Le elo c'est un classement qui est selon le niveau de compétence de l'enfant, de l'adulte, etc. C'est un niveau qui suit le joueur d'échecs tout au long de sa vie. Voilà. S'il est toujours dans la compétition, tout simplement. Par exemple, hier, il y a eu donc des enfants qui vont être qualifiés pour le niveau régional, parce que c'était une compétition départementale, et qui suivra les régionales et ensuite le championnat de France. Et vous avez des gamins qui peuvent arriver à un niveau 2000, plus de 2000. Et donc le classement, c'est un classement qui associe à la fois l'enfant et l'adulte. Et je peux vous dire que pour avoir des interventions dans les écoles, les gamins ont une capacité incroyable d'apprentissage et de garder tout ça, alors que nous les adultes, on essaie de trouver une case pour mettre un petit peu quelque chose dedans et pouvoir suivre, mais on s'est fait rattamer très rapidement par les gamins, très rapidement.
Ah oui, parce qu'ils apprennent très très vite.
Très très vite.
Ils apprennent très vite. Je reviens vers vous, mesdames les enseignantes. Donc sur le rôle, on le disait tout à l'heure, le rôle du silence dans cette salle où on a parfois des centaines d'enfants, où il y a ce silence. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors nous en classe, en fait, pour le tournoi, effectivement, c'est toujours très silencieux, mais dans la classe, sur le quotidien, c'est un petit peu moins vrai. Donc il a fallu développer des stratégies, des astuces pour obtenir le silence. Donc on a inventé un système de post-it. Quand un groupe commence à parler un petit peu fort, on a un post-it d'une couleur qui signifie attention. Et puis on a aussi un système d'exclusion, mais vraiment c'est rare parce que les enfants se prennent tellement au jeu qu'ils ont vraiment envie de poursuivre la partie et ils s'autodisciplinent assez rapidement finalement.
Donc on revient à la question du cadre et des règles.
Après c'est aussi ce que, enfin moi je rejoins monsieur Rio là-dessus, c'est que quand on passe d'une partie à l'autre, là il y a pas mal d'agitation, mais une fois qu'ils sont lancés dans la partie, il y a de la concentration et le silence se fait assez rapidement. Alors c'est vrai que quand ils sont en tournoi, il y a un aspect solennel quand même qui accentue ça, c'est-à-dire que là vraiment il y a vraiment du silence. Quand on s'entraîne en classe, qu'on joue, c'est un peu différent, il y a un peu plus de commentaires, il y a un peu plus de ah ben t'as mis ta dame là, mais t'aurais, enfin voilà, il y a un peu plus d'intervention. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que nous on est attachés aussi à faire des tournois en dehors de la classe, voilà, pour le côté un peu solennel de la chose. C'est vrai que la bibliothèque ou la salle des fêtes, c'est vrai que voilà.
On parlait de la bibliothèque et on parle de la salle des fêtes. Alors, la réaction des professeurs, enfin des enseignants de primaire et des professeurs de collège ont eu une réaction qui est commune. C'est-à-dire 400 enfants dans une salle, la salle des fêtes. Tout le monde connaît la salle des fêtes à Saint-Pierre-des-Corps. C'est une salle qui est bruyante. Vous arrivez, elle est bruyante pour un oui, pour un non. Vous avez mis 400 enfants dedans, sans compter que les professeurs aussi jouaient. Et je peux vous dire que tout le monde était impressionné par le niveau du bruit. C'est-à-dire que les gamins, ils étaient vraiment à respecter cet endroit, mais aussi à jouer, et ça dans tout le sérieux. Parce que les enfants, quand ils commencent à jouer, il y a une certaine maturité qui se fait au niveau des séances d'échecs. La première séance, un gamin, et vous le comparez avec la septième séance, le gamin est différent. Il a compris, et je peux vous dire qu'il a pris de la maturité, parce que quand il prend une décision au niveau de déplacer une pièce, un pion, il ne peut plus revenir en arrière, et c'est génial. Voilà, c'est bien. Et la bibliothèque, c'est Sonel, monsieur le directeur de la bibliothèque, parce que les enfants, ils arrivent là.
Mais justement, la bibliothèque, c'est solennel. Oui. Et tout à l'heure, monsieur Rioux, vous insistiez aussi sur le fait de prendre du plaisir dans cet espace qui est aussi un espace de découverte. On vient découvrir des livres, on vient découvrir des choses pour progresser, pour apprendre, et on vient aussi découvrir le jeu d'échecs. Et donc je rebondis sur cette notion de plaisir et je me retournais vers les enfants. Alors, de plaisir, on en prend, mais quand on perd, comment est-ce que vous gérez parfois ce qu'on appelle la frustration des fois? Oui.
Bah moi je me dis c'est pas grave puisque c'est qu'un jeu, et puis après il y a d'autres parties, donc on peut faire mieux aux autres parties.
Oui, alors tout le monde se dit ça, toi?
Bah, des fois, moi je suis un peu énervée.
Ah bah oui, hein. Il faut le dire.
Vraiment, oui. Les tournois où je suis énervée quand je perds, c'est quand c'est des tournois où on doit se qualifier pour quelque chose.
Oui.
Et du coup, bah, quand on perd, des fois, bah, on peut pas être qualifié, donc c'est énervant, quoi.
Et pourquoi est-ce qu'on peut pas être qualifié? Parce qu'on a des points en...
Par exemple, hier, il fallait faire minimum 3 points.
Voilà.
Et ceux qui avaient en dessous de 3 points, ils n'étaient pas qualifiés.
Donc, il y a cette notion d'émulation. Alors, je préfère utiliser le mot d'émulation. Émulation, ça veut dire vouloir se dépasser. Ça veut dire, c'est pas forcément l'autre qui est en face de soi qui est votre adversaire, mais vous êtes votre propre adversaire. Donc, ça nous emmène progressivement vers la compétition. C'est ça ? Donc, oui, donc il y a des personnes comme toi qui se disent « bon, c'est pas grave, il y a d'autres parties ». Et puis, il y en a d'autres qui se disent « ah ben moi, j'aurais quand même aimé gagner la partie ». Alors, je me retourne vers les enseignantes. Comment vous gérez, vous, cette frustration? Comment vous leur apprenez à gérer cette frustration dans la classe? Ou comment ça se manifeste, et comment est-ce que vous l'accueillez aussi?
C'est tout aussi difficile que pour le football ou autre matière, même un exercice raté ou une évaluation ratée, il faut... voilà, ce n'est pas plus difficile que le reste.
Donc on retrouve un peu les mêmes composantes qu'on retrouve dans d'autres matières. Alors mon grand, tu voulais dire quelque chose?
Bah, quand on perd, on joue quelqu'un de moins fort, alors que quand on gagne, on joue quelqu'un de plus fort, du coup ça va être plus difficile à gagner.
Mais justement, ça montre aussi qu'on progresse. Parce que si tu joues contre quelqu'un de plus fort, ça veut dire que toi aussi tu es plus fort qu'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Ça veut dire que... Mais enfin, des fois on joue quelqu'un de moins fort que nous, et
oui.
Du coup après on joue quelqu'un de plus fort que nous. Et donc, on n'a pas vraiment l'habitude de battre un plus fort que nous.
Bien justement, quel est l'objectif de jouer contre un plus fort que soi? Oui.
De voir si on a fait des progressions, parce que si par exemple au dernier tournoi on l'avait perdu et que là on le gagne, ça veut dire qu'on a progressé.
Alors là, je vais un peu vous titiller au niveau de votre technique, parce que tout à l'heure, vous nous avez donné des mots que j'ai déjà oubliés, j'ai même pas retenu, parce que vous êtes vraiment très fort, des stratèges. Alors, vous avez des tactiques. Alors, quelles sont vos tactiques au niveau de l'anticipation, au niveau de la mémorisation? Par exemple, vous anticipez combien de coups? 1, 2, 3, moins? Comment ça se passe?
Hier, j'ai vu un mat en 5 coups.
Mat à 5 coups? Waouh, c'est impressionnant. Il y a d'autres exemples. Matin 5 coups, alors explique-nous. Comment tu as fait? Tu as anticipé comment?
En fait, j'ai fait 3 coups avec mon cavalier et après, il fallait bouger mes tours.
Très bien.
C'est pas compliqué, voilà.
Voilà, vous avez compris. Voilà. C'est très simple.
Non, nous, on est non acquis.
Non acquis. Alors, je dois dire que la plupart de mes élèves me battent aux échecs. Pourtant, ça fait 3 ans, mais bon, voilà. Ah. Effectivement, ils apprennent vite. Et moi, comme disait Michel tout à l'heure, je ne dois pas avoir assez de place dans mes cases, je ne sais pas.
Alors, Michel, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, ces enfants qui progressent si vite, qui dépassent les professeurs?
Eh bien, sincèrement, je me pose la question, quel est le jeu, quel est le jeu de société ou le jeu tout court, quel est le sport qui peut réunir à la fois les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les handicapés, puisque les handicapés participent massivement à ce jeu d'échecs, et trouver un bonheur autour de cette passion, puisque le tournoi du 11 novembre, il y avait toutes sortes de personnes qui participaient. Et quand je vois, enfin personnellement, j'étais confronté à des gamins de 6 et 8 ans, vous ne voyez pas du tout venir l'échec et mat. Nous, en tant qu'adultes, on devrait réagir, mais la honte pour moi, etc. Ben, pas du tout, c'est vraiment du bonheur de rencontrer un petit gars ou une petite fille comme ça, qui vous rattrape comme ça en 5 minutes. On repart chez soi, mais c'est pas mal.
C'est pas mal. Alors, tu voulais intervenir?
En fait, c'est souvent les adultes, et ben ils jouent lentement, alors que les enfants, ils mémorisent. Je trouve qu'ils mémorisent plus vite et du coup, ils jouent plus vite.
Les enfants mémorisent plus vite et jouent plus vite. Donc, c'est très intéressant. Donc là, on a des joueurs en herbe qui progressent très vite. On a aussi ce lien, donc au-delà de la compétition, au-delà de dégager une certaine élite, allez, n'ayons pas peur des mots, au-delà de l'émulation, on a aussi cette rencontre transgénérationnelle entre les adultes et les enfants. Oui, monsieur Rio.
Oui, parmi les multiples avantages des échecs à la bibliothèque, il y a cet aspect intergénérationnel qui nous intéresse en soi. C'est-à-dire que la bibliothèque est un lieu, il n'y en a pas tant que ça qui accueille les grands-parents, les adultes, les enfants. Et donc tout le monde peut jouer aux échecs et donc on progresse là-dessus. Bon, alors je voudrais quand même dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel. Moi, je continue d'être un peu agacé par me faire battre par un petit bout de chou de 10 ans. Ouais, bah d'accord. Mais je n'aime pas trop. Voilà, il faut que je l'avoue.
Voilà, il progresse vite, oui. Bien trop vite parfois. Et nous allons venir sur la troisième partie après une courte pause.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi.
Message.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus. Jouer avec toi, baby. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres qui divertis. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard pixelisé m'a envoûté. Oh mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux.
Nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL.
Vous êtes branchés sur le 97.4 Radio Saint-Pierre Express.
Nous sommes sur Radio Saint-Pierre Express 97.4, donc avec l'association L'Échiquier Corps Pétrifien, avec ses dirigeants, présidents, avec des enseignantes, avec le directeur de la bibliothèque. Alors, nous venons d'écouter une chanson. Alors, Barnabé, cette chanson, elle nous parlait des écrans. Elle nous parlait des écrans, cette chanson.
Bah oui.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire des écrans? Aujourd'hui, tu trouves qu'il y a beaucoup d'écrans?
Bah...
Entre les iPods, les iPads...
Quand on fait des échecs, enfin, ça dépend. Il y a de l'écran sur des échecs. Il y a de l'écran et des fois quand on fait des échecs, on est un peu excité.
Alors,
des fois quand on en fait beaucoup.
Alors qu'on s'entende bien, quand on fait des échecs, tu veux dire sur des écrans, sur des ordinateurs, sur des iPads? C'est oui? Sur des écrans, c'est ça?
Bah oui, parce que des fois c'est pas forcément contre des ordinateurs, mais plutôt contre des vraies personnes, mais sur Internet.
Alors là, on en parlera tout à l'heure. Mais avant d'aller jusque là, je voulais revenir, je vais passer d'abord par les enseignantes, justement sur ce rôle des écrans, parce qu'aujourd'hui on peut parler des conséquences des écrans sur la concentration des élèves. Et puisque là, nous parlons spécifiquement de concentration, donc quel lien ou peut-on faire avec la concentration des élèves, des enfants, des élèves, et aussi le lien au niveau de la mémorisation, mais aussi le lien au niveau de la sociabilisation, parce que les enfants qui sont devant des écrans, ce sont souvent des enfants qui s'isolent, ce sont souvent des enfants qui sont seuls. Et peut-vous nous parler du lien qui se fait quand ils sont ensemble?
L'écran, en effet, nous, on a remarqué dans les classes que la concentration en classe faiblit, mais aussi sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a toute une construction de l'imaginaire, du complexe, et même au niveau du langage qui est détruit. Un appauvrissement, parce que le temps qu'on passe avec son écran ne le passe pas à jouer à un jeu de société avec son frère ou sa sœur, à jouer dehors avec ses amis, à jouer au Lego aussi. Et je remarque qu'un enfant, quand il trace un tableau, ça pose, c'est tout bête, hein, trace un tableau sur ton cahier, ça devient tout un... Voilà, il faut anticiper et du coup, ça devient très compliqué. Donc, par rapport aux échecs, c'est vrai que, par exemple, cette activité, elle est formidable pour ça.
Oui, madame.
J'ajouterais sur les écrans que le problème aussi, c'est que les écrans, ça a tendance à happer et qu'on ne voit pas le temps passer et que parfois on se couche très, très, très tard. Surtout que les tablettes, ça peut s'emmener dans la chambre, voir l'ordinateur dans la chambre, voir la télé. Et ça, pour effectivement, après le travail en classe, ça pose problème parce que les enfants ont besoin de dormir.
Alors, je reviens vers toi, Barnabé.
Pas que, d'ailleurs.
Alors, parce que les enfants, visiblement, non, ils ont besoin de dormir, oui, mais ils ont aussi trouvé la parade. Parce que Barnabé nous disait qu'on peut jouer en réseau avec d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'on retrouve un peu le revers de cette médaille, c'est-à-dire qu'on peut jouer aux échecs aussi en ligne avec d'autres personnes. C'est ça, Barnabé ?
Bah oui, mais c'est un peu de l'écran parce que, voilà.
Alors, qu'est-ce que tu préfères, Barnabé ? Jouer avec quelqu'un dans un écran ou jouer avec quelqu'un en vrai ?
En vrai.
En vrai.
Parce qu'on le voit pas sur l'ordinateur, on sait pas trop s'il est fort. Et par rapport à l'Ichess, en fait, les loups, ça veut rien dire.
D'accord. Et toi, il t'est arrivé de jouer sur un écran, parfois ?
Non.
Non. Et les copines qui sont à côté, est-ce qu'il vous est arrivé de jouer sur des écrans ?
Oui.
Oui ? Contre des personnes ou contre un ordinateur ?
Contre des personnes.
Contre des personnes, mais que tu ne vois pas ?
Sur ce qui disait Bernabé, papa, il a l'Ichess sur sa tablette.
Oui. Alors, tu nous expliques ce que c'est ? C'est une appli ?
C'est une appli...
Parce que nous, on n'est pas très techniciens, hein, tu vois.
On joue contre des personnes aux échecs, mais on ne les voit pas et...
Alors, tu préfères jouer avec des personnes que tu ne vois pas ou avec des personnes que tu vois ?
En fait, je sais pas.
Ah, un petit doute. C'est intéressant ce petit doute.
Parce que sur l'Ichess, les personnes, c'est jamais les mêmes. Alors qu'un tournoi, par exemple, on peut pas jouer une même personne dans un tournoi. Mais si on fait un tournoi, le tournoi d'après, on peut la rejouer.
D'accord.
Donc on sait un peu ses techniques, etc. Et voilà quoi.
Ah, donc ça veut dire qu'il y a du bon et du moins bon. Alors, monsieur Rioux, vous avez un avis là-dessus ?
Je n'ai pas d'avis sur tout. En tous les cas, j'essaie d'éviter de la voir. En tous les cas, l'idée qu'on se fait du jeu vidéo, mais je me méfie parce que tout ça, c'est compliqué. Il faut voir, il y a probablement des jeux vidéo intéressants aussi. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de totalement antinomique entre les jeux d'échecs et les jeux vidéo. Grosso modo, les jeux vidéo prennent un peu le pouvoir dans le cerveau des enfants et des adultes, tandis que les échecs, c'est quand même le cerveau qui prend le pouvoir, alors là, total, sur le l'échiquier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la maîtrise totale. Il n'est pas grand, l'échiquier. Hein. Et voilà, ça fait 30, c'est pas beaucoup de cases. N'empêche que pour le maîtriser entièrement, donc là, il faut une puissance de calcul énorme. Mmh. Et ça, c'est assez... Et d'une certaine manière, moi, je me dis, mais il faudrait vérifier ça, qu'un enfant qui joue aux échecs et qui comprend intuitivement ça, que c'est lui le maître dans le jeu d'échecs, est-ce que ça ne peut pas l'aider à comprendre toutes les situations où il ne l'est plus ? Voilà. Et donc, moi, je suis assez intéressé par cette idée parce que, il ne faut pas les enfants jouer aux jeux vidéo. Oui, bon, les enfants, ils vont faire plein de choses, plein de petites choses. Il faut bien qu'ils fassent leurs expériences, il faut bien qu'ils comprennent. Simplement, si les adultes leur donnent toutes sortes de moyens de réflexion et tout ça, voilà, il faut qu'ils participent aussi à la décision. Et donc, pour moi, c'est un des éléments, le jeu d'échecs, extrêmement fort de ce point de vue.
Ce que vous dites est très, très intéressant. Et d'ailleurs, des études démontrent, c'est ce qu'on appelle l'attention captée. Et les enseignantes pourront peut-être confirmer. C'est-à-dire que les enfants qui sont devant les écrans, eh bien, pour qu'on les sorte des écrans, l'écran prend le total contrôle de leur cerveau. Ouais. Et il faut 3 à 4 heures pour qu'ils puissent retrouver une concentration normale. Donc voilà, on appelle ça l'attention captée. Mmh. Alors, Michel, vous vouliez réagir tout à l'heure.
Oui, parce qu'en intervenant dans les écoles, notamment en matinée, les gamins, les premières discussions qu'ils ont, c'est le fait qu'ils aient joué au réseau la veille et tard, c'est-à-dire Fortnite, Mario, etc. Et le matin, avant d'aller à l'école. Après, on s'aperçoit ceux qui sont à fond, au niveau des écrans et ceux qui sont beaucoup moins concernés, c'est-à-dire qui se limitent, par exemple, ce qui est recommandé à 30 minutes, je regarde mes enfants parce que c'est toujours une discussion habituelle avec les miens, c'est 30 minutes par jour. D'accord, on se lâche un peu le week-end, mais c'est pas plus que ça. C'est 30 minutes par jour. Mais les gamins que je vois et que j'entends, et qu'on leur demande de se concentrer, soit en partie d'échecs, soit faire des exercices, eh ben vous faites une différence dans la classe. Vous faites une différence dans le sens qu'il y a les gamins, quand ils sont en jeu, quand ils sont concernés par les écrans énormément, ils n'arrivent pas à jouer contre quelqu'un qui est concentré et qui maîtrise justement ce que disait Gilles, qui maîtrise un petit peu le déplacement des pièces et le réseau qu'il est en train de constituer, enfin le réseau de maths, par rapport à des gamins qui se tiennent pas sur place, qui sont ou debout, ou excités, ou qui prennent quelque chose. Ils sont complètement, en fait, passifs vis-à-vis de l'écran qu'ils utilisent abusivement, mais qui sont complètement inactifs quand on leur demande de se concentrer par rapport au jeu d'échecs, qui demande beaucoup vis-à-vis d'un enfant pour ça.
Oui, ce que vous dites est très important. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. J'ai deux enfants aussi, à qui j'ai retiré les écrans il y a très longtemps maintenant, et à qui je conseille, je vais dire comme ça pour ne pas dire comme Bernardin, je fais pas le dictateur, à qui je conseille de jouer ensemble dans le jeu des échecs, et j'ai pu moi-même constater aussi une meilleure concentration. Alors, tu voulais nous dire quelque chose au niveau des écrans ou d'autres choses?
Bah, en fait, c'est que vendredi, il y avait un tournoi à la bibliothèque. Et j'ai joué quelqu'un qui était jamais assis, qui était tout le temps en train de bouger, qui lisait les coups à la personne d'à côté. Enfin, elle n'était pas du tout concentrée.
Donc au niveau de sa posture, cette personne avait un peu de mal. Donc on revient aussi, alors là avec les enseignantes, et au niveau de la posture, donc les échecs permettent aussi aux élèves de pouvoir mieux se tenir, mieux se concentrer, parce que comme le dit justement à dessein cet élève aussi, donc il y a des enfants qui ont du mal à se concentrer, à se poser, pour dire les choses simplement.
Oui, alors je dois dire que certains de mes élèves m'étonnent dans le bon sens, enfin ont plus de mal à se, enfin ont plus non justement arrivent mieux à se concentrer sur une partie d'échecs que sur d'autres choses. Mais je voulais aussi digresser peut-être un petit peu, mais ce que je trouve moi génial dans les échecs, enfin comme dans d'autres jeux, mais c'est qu'on a besoin de rien. Enfin, c'est-à-dire que à la limite si on a un beau jeu d'échecs, c'est extrêmement agréable de jouer avec un beau jeu d'échecs. Il n'empêche que vous prenez quelques cailloux, une feuille de papier, vous jouez aux échecs avec le même niveau de concentration. Voilà. Après, c'est l'imaginaire qui fait le reste. Mais nous, on en a construit quelques-uns. On a aussi quelques beaux échiquiers. Mais voilà, c'est important aussi. Ça ne demande rien financièrement. Et voilà.
Alors, la discussion est très intéressante. Alors, l'émission tire à sa fin et je vais quand même enchaîner. On va avoir une petite aparté quand même, une petite réflexion. Michel, juste une minute pour ceux qui nous écoutent, peut-être nous rappeler rapidement l'histoire des échecs, très rapide.
Un peu. L'histoire, le début, la naissance.
Oui, d'accord. Voilà.
Le début du jeu d'échecs vient il y a 1500 ans d'un pays qui s'appelle l'Inde, où ils étaient assez en guerre les uns contre les autres, et c'est une légende, hein. Au revoir mesdames. Et... Et puis...
puisqu'on ne peut pas partir discrètement, au revoir à tous.
Au revoir. À très bientôt, les enseignantes doivent retourner dans leur classe. À très bientôt.
Et la légende veut qu'un conseiller d'un seigneur lui a dit « Mais la meilleure façon de jouer contre un autre seigneur, c'est peut-être d'utiliser un jeu qui vous oppose l'un à l'autre, au lieu de faire perdre des vies à des personnes. » Et donc est née l'idée du jeu d'échecs, qui, donc, il y a 1500 ans. Après, il y a eu le commerce, les guerres, ce jeu s'est développé parmi les puissants, les dominants, etc. Il est arrivé au moment du Moyen-Âge en Europe, au moment de l'invasion par les Sarrasins. Et donc là, c'était le moment des châteaux, le moment des châteaux faits par Philippe Auguste. Les années 1100-110, etc. Ces châteaux-là ont configuré le jeu d'échecs en France, avec donc les tours, les cavaliers, les fous, les rois et reines. Voilà.
Vous
et
entendez les enfants, voilà. Vous connaissiez cette histoire?
Oui.
Vous connaissiez cette histoire, oui. Vous connaissez beaucoup de choses. Ah, il y en a une qui ne connaissait pas. Bon, voilà. Donc on apprend des choses. Oui, mais
Moi, en fait, c'était... une personne qui a, enfin, comme il a dit, que enfin c'était à cause des guerres, etc. Mais en fait, il y avait aussi l'histoire du riz.
Oui,
l'histoire du riz.
L'histoire du riz, c'est quoi? C'est le Seigneur demande au conseiller, mais puisque tu as réussi à me convaincre, qu'est-ce que tu veux? Il répond, je veux un grain de riz sur la première case. Après, je veux que ça soit doublé sur chaque case. Et en fait, on arrive à la fin à ce que le conseiller soit encore beaucoup plus riche que tous les riches de son pays.
Donc on en revient à un jeu de stratégie.
Oui.
On en revient à un jeu de stratégie. Voilà. Alors, nous pourrions discuter comme ça des heures et des heures sur le jeu d'échecs, son histoire, son impact, comment est-ce que ça s'organise dans cette commune à Saint-Pierre-des-Corps. Et là, simplement, et je vais me tourner vers vous, Bernardin Colisseau, donc que peut-on dire, que peut-on dire justement du rôle, parce qu'on a eu des grands champions, peut-être pouvez-vous nous en citer quelques-uns, Kasparov, voilà, mais au-delà des grands champions que nous avons eus, il y a eu aussi des matchs, des combats entre les grands champions des échecs et les ordinateurs, donc Deep Blue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et justement, pour dépasser un peu cela, la question c'est, la machine peut-elle égaler l'homme? Alors c'est un vaste débat, mais juste, voilà, avoir un peu votre impression là-dessus. Allez-y.
Oui, l'histoire avec l'humain et la machine, personnellement, je fais partie de ce genre où je me prends plus la tête avec, puisque pour moi, la machine est devenue beaucoup plus forte que nous. On peut faire ce qu'on veut, on ne pourra plus du tout le battre. Donc,
Ah, c'est très subjectif, c'est pas ce que dit Kasparov. Oui.
Non.
Oui.
Non, je veux juste intervenir sur la question, c'était une question de puissance de calcul.
Oui.
Du point de vue de la puissance de calcul, la machine va être plus forte. Et du point de vue de l'imagination, on n'est pas embêté du tout, quoi, pour le moment, quoi. Donc c'est le mélange entre l'imagination et la puissance de calcul. Mais les échecs, c'est quand même, c'est tellement carré que effectivement, l'ordinateur, on peut penser que l'ordinateur a été inventé carrément pour régler les problèmes difficiles d'échecs, hein, puisque on peut lui mettre toutes les données dans la machine. Voilà, tandis que dans l'imagination, il n'y a pas de risque. Alors, comme j'ai la parole, je veux la garder parce que je voudrais pas finir l'émission sans tirer mon chapeau à l'association. Si on a fait toutes les choses qu'on a fait à la bibliothèque, il est certain que c'est parce que l'association, c'est pas seulement qu'elle est dynamique, c'est qu'elle est organisée, que ce sont des gens quand même qui sont un certain nombre, qui s'entendent, mais c'est leur affaire, et qui fait que à chaque fois les choses sont organisées dans les délais. Voilà, pour sur une classe, il y a des exigences et tout ça, et donc l'association vraiment fait un travail absolument extraordinaire du point de vue de l'organisation des choses, et c'est pas si simple que ça.
Donc un merci. Grand bravo à l'association, donc qui met en place des actions, que ce soit dans les quartiers, dans les écoles, en lien, en partenariat avec la bibliothèque. Et donc Michel, vous vouliez aussi intervenir. Alors, pour conclure.
Oui, concluons, on va essayer de dépasser le record national des 500. 500, c'est une grosse ville comme Clichy qui avait réuni 500 élèves. On est un petit club, on a réuni 400 gamins, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'impact. Mais on va faire aussi, les collèges et le lycée Martin Nadeau, on met en place des tours, des énormes tours en bois, où on va demander à la population de trouver l'échec, le mat à faire en deux ou trois coups, et on va installer ça un mois avant le tournoi interscolaire dans la commune, c'est-à-dire devant la gare, devant la mairie, aux Atlantes, voilà. Et ça, c'est un challenge à nouveau.
Donc vous l'aurez donc compris, beaucoup d'actions en perspective. Nous vous remercions, merci les enfants,
merci
à tous les intervenants,
merci.
C'est une émission que vous pourrez retrouver en podcast, et nous vous disons à très bientôt.
Au revoir.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.